Made in France Première Vision, en partenariat avec l'Institut français de la mode, présente les 5e rencontres du Made in France. À l'occasion de la rentrée, ce cycle de 6 tables rondes se penche sur les nouvelles approches collaboratives mises en place par les acteurs hexagonaux des secteurs du textile, du cuir et de la confection. Chapitre 4. Tricoter des liens plus forts par la mise en réseau. Animé par Nathalie Ruel.
Bienvenue à cette seconde journée du Salon Made in France et des conférences co-animées par le Salon Première Vision et l'Institut français de la mode. Et nous sommes ravis de continuer à travailler sur et à échanger avec vous sur cette idée fondamentale et de coopération, d'échange. On a démarré hier à en parler. Et ce matin, donc, on continue dans cette idée de réseau. Avec une table ronde autour de l'importance des réseaux d'entreprise et de ce qu'ils peuvent amener à chacun. Donc, les réseaux d'entreprise, qu'ils soient régionaux ou sectoriels, existent depuis des décennies. La crise sanitaire a rebattu beaucoup de cartes et a fait en sorte que on se rend compte que ces réseaux et cette entraide, cette coopération sont encore plus nécessaires et utiles. Et pour illustrer donc ces deux types de réseaux, qu'ils soient régionaux ou sectoriels, on a invité un certain nombre d'animateurs de réseaux et de chefs d'entreprise qui vont illustrer d'une part ce qui peut se passer dans le côté un peu régional du Grand Ouest ou de la région Rhône-Alpes, mais aussi du sectoriel avec des entreprises qui illustrent la maille, donc le tricotage. Alors j'invite à monter sur scène Eric Mézin, qui est délégué général de l'UITH Nord et fondateur du Club des Tricoteurs, un des fondateurs du Club des Tricoteurs. Donc je demande également à Karine Renouille Thiberguin, qui est coprésidente des manufactures de layette et tricot, Séverine Brun, qui est la directrice générale de l'entreprise De Vernois, Sophie Pinault, qui est présidente de l'entreprise Getex et Fermil, et présidente également de Mode Grand Ouest, et enfin Isabelle Guéry-Delmont, qui est la sous-directrice habillement de l'IFTH. Et alors, nous avons l'autorisation d'enlever nos masques, mais il n'y a que nous qui avons cette autorisation, et pas la salle. Parce qu'on est bien loin et on respecte quand même les mesures sanitaires. Et c'est plus facile pour échanger, afin que vous nous entendiez bien tous. Alors, Eric, on va avoir une... Je vous propose, bien sûr, la salle aura la parole à la fin de la présentation de chacun et des échanges que nous allons avoir, de façon à ce que vous puissiez également poser des questions ou évoquer des expériences que vous avez pu avoir et intéressantes à partager. Donc, Eric, toi, tu es directeur général d'Unimail.
Historiquement.
Unimail, c'est entre autres. Et c'est un regroupement de tricoteurs qui, à l'époque, était plutôt sur Grand Ouest Normandie. Ce réseau, avec le Club des Tricoteurs, devient plus national. C'est-à-dire, pourquoi il est devenu d'un coup national alors que ça faisait des décennies qu'il était uniquement sur la Normandie?
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci de nous donner la possibilité de mettre un petit coup d'éclairage sur ce Club des Tricoteurs. D'abord, en introduction, je ne sais pas si dans ta soirée c'était plus le rhum que le cannabis, mais bravo pour le titre de la table ronde « Tricoter les réseaux » parce que c'est exactement ce que l'on a souhaité faire avec ce Club des Tricoteurs. Donc juste deux mots d'histoire et redonner à tout seigneur tout honneur. Donc il existe depuis une vingtaine d'années nos réunions de tricoteurs de l'Ouest, Normandie, Bretagne, adhérents historiques. Donc on réunit deux fois par an à Rennes. Donc pour parler des entreprises les plus emblématiques, donc Armor, Saint-James, mais les plus petites comme Tricoterie du Val-de-Serre, Sedem-Maillé, maintenant les petites start-up comme L'Important ou 3D Tex, etc. Et le Covid a fait pas mal de mal, mais il a eu aussi des effets positifs. Un des effets positifs, ça a été une conf-call avec Karine, qu'on ne se connaissait pas. Donc, dans le cadre de l'UFIM, il y avait une mission sur la relocalisation sous l'angle de la distribution. Donc, on a eu une intéressante discussion. Et on a dévié rapidement sur la partie tricotage, justement, donc avec ces réunions de Rennes de nos tricoteurs qu'elle ne connaissait pas. Et puis, Karine est arrivée avec deux idées en tête, en disant, donc, elle présentera son petit groupe de mailles, en disant, écoute, Eric, moi, ça m'intéresse qu'on réfléchisse sur la mutualisation de nos outils de production. Est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'on pourrait partager cela? Et le deuxième sujet, c'est que connaissent beaucoup d'entreprises les difficultés de recrutement. Et donc, à partir de notre petit groupe de 7-8 tricoteurs de l'Ouest Normandie, on a dit, mais finalement, ce sont deux sujets qui intéressent potentiellement tous les tricoteurs de France. Et donc, on a invité une bonne trentaine aujourd'hui de tricoteurs à rejoindre ce club des tricoteurs. Donc, il y a deux sujets qui ont été amenés par Karine. Le premier, la mutualisation des outils de production. Donc, on a proposé aux industriels, puisque chacun renouvelle ou développe son parc machine, en disant, tiens, est-ce que ça peut intéresser d'autres tricoteurs de partager du temps machine sur tel et tel métier? La réponse des 29 autres, quasiment, a été un petit peu verticale en disant, non, j'aime mieux acheter mes machines et les utiliser quasiment à 100% pour moi. On a eu dans la première réunion qu'on a eue, une deuxième demande de mutualisation autour de l'outil d'impression numérique. Pareil, un tricoteur qui est sur le salon d'ailleurs, qui avait l'intention d'acheter un outil d'impression numérique, a dit, tiens, je risque de ne pas l'utiliser, de ne pas le saturer, est-ce que ça peut intéresser d'autres tricoteurs? Pareil, pas beaucoup d'enthousiasme pour partager l'investissement. Mais dans la conversation, on a un autre tricoteur qui nous dit « Ah, par contre, en ce moment, il y a beaucoup de demandes sur de la jauge 12, en rectiligne, c'était de mémoire. Moi, je n'ai pas de jauge 12. Est-ce que quelqu'un a une jauge 12 disponible, etc. » Et de là est partie l'idée de dire « Mais après tout, donc on avait fait notre tour de table virtuel en disant « Moi, je suis en circulaire, en rectiligne, en intégrale, etc. etc. » Et du coup, donc, l'idée dans la première idée du club des tricoteurs, c'est de dire qu'on est en train de constituer une base de données de tous les savoir-faire, de tout le parc machine des 30 tricoteurs. Je suis en rectiligne, je jauge. Alors, on a aujourd'hui de la 1,5 à la 36, voire la 44. Donc, on prend aussi les gens en chaussant, évidemment, en tricotage chaussant. Et donc, l'idée, c'est au sein du club des tricoteurs, que tout le monde ait la connaissance de qui a quoi pour quand il y a des surproduction ou des incapacités de produire, de pouvoir se retourner vers le confrère du réseau en disant « Tiens, tu as une jauge 12, est-ce que tu pourrais me passer X mètres en jauge 12 ?» Donc ça, c'est la première idée au sein du club des tricoteurs, donc de partage d'informations, de savoir-faire, voire partage de marché, d'activité. Et la deuxième idée donc qu'avait apportée Karine, c'était de dire nous avons tous des difficultés à recruter, notamment des bonnetiers. D'abord, il n'y a plus de formation de bonnetiers, donc chacun se débrouille à la petite semaine en prenant un informaticien, un technicien, un maintenance qui forme au tricotage. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là aussi possibilité de partager entre nous cette problématique et de voir ce qui en sort? Et donc, on a fait, avec Anne-Sophie chez nous, une enquête, une petite étude sur les besoins formels des uns des autres. Donc, que je ne dise pas de bêtises, on a, parmi les 30, on a eu 17 réponses sur les 30. Les 17 réponses, on avait 35 départs en retraite entre 2021 et 2023 en bonnetier. Bonnetier à la fois conducteur et programmeur. Hein. Et 35 projets de recrutement, à la fois pour renouveler, mais également pour développer l'activité. Et comme il n'y a plus de formation, on est en train, avec toute l'équipe de Maya Campus à Lyon, Rouen, et au niveau de l'ANSET, l'école d'ingénieurs à Roubaix également, essayer de mettre en place une formation pour former nos futurs bonnetiers, conducteurs ou programmeurs. Donc voilà, les deux actions phares du club des tricoteurs, partagées avec la trentaine des tricoteurs français.
Merci. Alors, Karine, effectivement, on vous a invité et on a pensé à vous pour participer à cette conférence à double titre quand on a vu le mot réseau, puisque vous animez vous-même un réseau de trois entreprises. tricoteur rectiligne, ce qui fait que vous avez aujourd'hui plus de 70 machines de tricotage rectiligne. On s'interrogeait sur le fait, êtes-vous maintenant au sein du groupe le plus gros, la plus grosse capacité de rectiligne en France. Donc il y a trois entreprises qui ne sont pas toutes proches l'une de l'autre, et vous êtes l'initiatrice de ce club des tricoteurs. Donc qu'est-ce qui... même juste de raconter un peu votre parcours et pourquoi vous avez initié le regroupement de ces trois entreprises, c'est intéressant. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour vous, pourquoi ça vous a semblé nécessaire d'avoir cette idée d'un club des tricoteurs, même si Eric a raconté beaucoup, hein, ce que vous vouliez dire aussi.
Je vais essayer de raconter autre chose du coup. Mais oui, donc au niveau de l'histoire de du groupe que je co-dirige avec Arnaud de Bélavre, les manufactures de tricot, c'est vrai que j'ai repris la manufacture de Layette il y a maintenant 6 ans, qui est une manufacture qui est à Pau et qui tricote toujours en rectiligne pour le bébé et pour la grande distribution. Et puis avec Arnaud, on est un petit peu tombé dans le tricot, et c'est vrai que c'est une boîte qu'on a redressée et qui marche plutôt très très bien. Et quand on a entendu parler à Rohan d'un autre tricoteur rectiligne aussi qui allait pas bien et qui risquait de s'arrêter, on s'est dit on va peut-être du coup profiter de notre première expérience qu'on a avec la manufacture de Layette pour un peu dupliquer et essayer de sauver sa deuxième boîte qui s'appelait Jean Ruiz, et ce qu'on a fait avec succès, puisque Jean Ruiz est complètement sorti du rouge et même est carrément dans le vert, je ne sais pas si on dit vert écarlate, j'aurais presque envie de le dire comme ça. Donc ça se passe très bien chez Ruiz. Et puis à nouveau, l'année dernière, on a entendu parler d'une manufacture qui était au sud de Roanne, qui s'appelle Marcou Lafay, qui était en train de faire faillite, et en laissant tomber 30 personnes qui avaient des savoir-faire de dingue. Juste, ils sont dans un coin de France qui n'est pas connu du grand monde. Alors nous, on le connaissait ayant Jean Ruiz. Et du coup, on s'est lancé dans la reprise aussi de cette entreprise en se disant, c'est vrai que nous, ça va plus vite parce qu'on a déjà les marchés de la manufacture de Layette qu'on va tout de suite pouvoir mettre chez eux. Et en plus, on avait besoin de capacité de prod, on avait besoin de personnes à recruter. Et là, les personnes étaient déjà recrutées, déjà formées, elles étaient déjà là. Il suffisait qu'on apporte les marchés. Donc c'est en fait, la conclusion de ce parcours, c'est de se dire qu'en fait, quand l'industrie est en train de passer un cap en ce moment, qui est un cap aussi violent que celui qui a pu avoir lieu dans les années 70 ou dans les années 2000 après la levée des quotas chinois, qui est un cap vers la réindustrialisation et qui est un cap que j'estime violent, parce qu'en fait les marchés arrivent tellement brutalement vers nous que c'est assez compliqué de se réadapter. Pendant 5 ans, en fait, j'ai couru après les commandes. C'était vraiment ma fonction. La fonction d'Arnaud, c'était d'organiser, une fois que j'avais dit oui à tout le monde, d'organiser qu'on fasse effectivement les commandes que j'avais acceptées et pour lesquelles j'avais dit que c'était possible. Et aujourd'hui, enfin, maintenant, ça fait 6 mois que ce n'est plus mon rôle dans ce groupe-là. Mon rôle est d'assister Arnaud à produire plus, parce qu'en fait, on a des commandes qui nous arrivent qui sont bien, bien supérieures à notre capacité de production. Même si on a repris Marcou l'année dernière, on a doublé notre capacité de production l'année dernière. Et malgré ça, on est aujourd'hui face à des commandes qui sont tellement, tellement, tellement énormes qu'en fait, notre problème est aujourd'hui de reproduire. Notre problème n'est plus de vendre. Ça a été un problème pendant des années. Et c'est la raison pour laquelle, entre tricoteurs, on ne se parlait pas trop. Parce qu'en fait, il y avait tellement peu de marché en face de nous. Il y avait tellement peu de gens qui voulaient acheter des trucs qu'on n'allait pas commencer à faire ami-ami. Et puis, il y avait un moment, il fallait bien sauver nos boîtes et essayer de remporter les marchés. Aujourd'hui, les marchés sont plus gros globalement que nous tous réunis. Donc, en fait, c'est plutôt comment on se réorganise pour aider. Là, en fait, on est passé à un cap un peu au-dessus, à se dire comment on fait pour réindustrialiser notre pays, en fait. Et pas que pour faire progresser nos boîtes. On est aussi pour aider les tricoteurs qui sont en train de se monter, leur donner des conseils, parce que de toute façon, c'est tellement énorme ce qu'il y a en face qui arrive qu'on n'y arrivera pas. D'où l'idée, en effet, quand Eric m'a parlé de ce club qui se limitait, enfin, qui était déjà pas mal, mais qui était nord et puis ouest, il m'a dit, mais faisons-le national, parce qu'on a de tels défis devant nous qu'il faut qu'on les affronte ensemble. Après, en effet, déjà, comprenons quels sont les défis, parce que moi, je peux avoir le sentiment d'avoir un défi. C'est vrai que je disais à Eric, moi, j'ai un problème de programmeur où Il y a une des boîtes, dans 2 ans, j'ai plus personne, et les 2 autres, dans 10 ans, j'ai plus personne, et ça fait 20 ans qu'il n'y a plus d'école. Donc, j'ai un problème, mais peut-être qu'il est localisé à mes 3 boîtes, et puis dès qu'on l'a soumis, voilà, on sait que derrière, il y a 35 personnes à recruter. Et du coup, quand on sait qu'il y a 35 personnes, c'est plus facile de s'adresser à Maya Campus en disant « Trouvez-nous une solution, rouvrons un BTS textile tricotage. » Et ce sont des choses qui sont possibles si on est ensemble et si on voilà. Après, c'est vrai qu'il y avait d'autres idées qui ont été mises sur un partage de parc, sur des choses comme ça, où là, on a plutôt un peu freiné et on s'est dit non, en fait, c'est pas ça dont on a besoin. Mais en fait, on a besoin de se parler régulièrement. Ce club, il a lieu tous les 6 mois. On essaye de tourner les uns chez les autres parce que j'ai adoré notre visite chez Filt, qui est un tricoteur un peu spécial. Il est entre le tricotage et le tissage, celui qui fait ses paniers à provisions, mais qui a en termes de marketing, pour plein de trucs, il a plein de trucs à nous apprendre et à partager. Et je trouve qu'on est aujourd'hui dans ce partage les uns envers les autres, qui est quand même beaucoup plus joyeux que quand on était stressé à sauver nos emplois, enfin, parce que c'était notre job, c'était de se concentrer sur nos boîtes, sur les salariés qu'on avait recrutés ou qu'on allait essayer de pas licencier et on allait chercher les marchés. Aujourd'hui, on a pu aller chercher les marchés, ils sont là et on a au contraire à apporter autre chose aux uns et aux autres et puis à tout le monde. Donc voilà, d'où je pense la nécessité de travailler autrement aujourd'hui. C'est beaucoup plus joyeux qu'avant, je vous le dis.
Alors, je ne sais pas si vous ressentez ça, que ce soit joyeux, mais je pense qu'il y a des sourires derrière les masques quand même. Alors, Séverine, vous dirigez une entreprise qui va fêter ses 100 ans dans 5 ans. J'ai vu ça, donc la maison de Vernois, qui a traversé des périodes facile, c'est jamais facile, mais faste, et ensuite qui a vécu la désindustrialisation complètement de la région, donc que ce soit sur l'industrie de la maille, mais pas que, hein, je pense qu'il y avait l'armée qui était, enfin il y avait beaucoup de choses sur Roanne et qui sont parties. Et alors, comment l'appartenance à un réseau d'entreprises peut vous aider à continuer cette belle aventure de l'entreprise de Vernois?
Bonjour à tous. C'est en étant tous ensemble en fait qu'on ira plus loin, parce que tout seul en fait c'est toujours compliqué d'être tout seul dans son coin. Effectivement, comme vous l'avez dit là, dans le textile, on a traversé de multiples crises qui ont vraiment mis à mal en fait le secteur, et la dernière en fait cette crise du Covid. Je dirais que tout ça, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a moins d'acteurs, ça nous rend à la fois, je dirais, plus fort et plus vulnérable. Plus fort parce que on a dû s'adapter de manière rapide à ce bouleversement en fait de consommation qu'a créé en fait, si vous voulez, le Covid. Donc, il a fallu réadapter les process. C'est pas facile quand on a bientôt 100 ans. Plus facile quand on est plus jeune. Et à la fois, on est plus vulnérable parce qu'on est tous face à ce qu'a évoqué en fait Karine, à une forte demande du fait de l'évolution de la consommation vers une prise de conscience, vers une relocalisation avec des produits français. Nous sommes face en fait à une pénurie de main-d'œuvre, si vous voulez, de candidats pour travailler. Donc c'est en étant tous ensemble qu'on va pouvoir montrer l'attractivité de notre filière et de la maille en particulier, avec en communiquant. Il faut qu'on communique sur cette attractivité, sur le fait que dans ce métier il y a des emplois durables et qu'il y a au sein de ce métier qu'il y a des perspectives de carrière. On bouge à l'intérieur de ce métier, donc il faut qu'on tous ensemble qu'on communique en fait sur notre filière, sur la maille. En même temps, il faut former, puisque on est face aujourd'hui à cette pénurie, si vous voulez. On recrute des personnes qui ne sont pas forcément du tout du secteur en fait du textile, de la maille, qui ne connaissent pas du tout. La dernière date qu'on a recrutée, elle vient du transport, donc il faut les former. Et cette formation va être d'autant plus importante que les jeunes, en fait, aujourd'hui, n'ont pas du tout vocation à faire carrière au sein d'une même entreprise. Ils vont changer tous les 3-4 ans, donc il faudra encore tout le temps former. C'est vrai qu'au sein de Vernois, on a la chance, je veux dire, et c'est merveilleux de connaître ça. On fait des remises de médailles chaque année, des médailles vermeilles du travail, vermeilles des cartes, des médailles du travail grand or, ça veut dire des personnes qui ont travaillé 30 ans, 35 ans, 40 ans dans la même entreprise. Ça ne se verra plus. Ainsi va la vie, c'est pas grave, c'est comme ça, je veux dire, que ça nous choque ou ça nous choque pas, peu importe, c'est le courant de l'histoire. Donc la formation est importante. Effectivement, vous en parliez, Eric et Karine, de cette formation. On travaille main dans la main, et c'est important, avec Maya Campus, qui est un regroupement du CEPITRA et de Createch, qui est là pour former en étant vraiment... Parce que nous, les entreprises, on explique exactement quels sont nos besoins, parce qu'on est tous ensemble pour dire, voilà, on a besoin de telle et telle formation. Karine parlait de programmateurs, on parle de programmateurs, on parle de remailleuses, on parle de... Il y a des milliers en fait, de postes qui sont à pourvoir dans ce métier-là. Et donc, c'est tous ensemble qu'on va trouver l'axe, si vous voulez, de formation pour permettre en fait à des candidats de venir en fait dans notre beau métier qui est la maille. Je dirais aussi un troisième, juste pour donner un exemple, en Rhône-Alpes, il y a 130 entreprises qui sont en recherche de candidats en formation par alternance. Il y en a 30 qui ne sont pas pourvues. Donc il y a vraiment du travail, des perspectives et des emplois durables. Donc voilà, c'est en ça que je voulais témoigner, si vous voulez, sur le fait d'être tous ensemble va vraiment nous permettre, si vous voulez, de clamer haut et fort, venez dans notre beau métier qu'est la maille. C'est un métier mais passionnant, passionnant parce que on a été quand même pas mal bouleversés avec toutes ces crises, mais ça nous permet de rester jeunes et de tout le temps. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup d'humilité parce qu'on se remet totalement en fait en cause régulièrement. Et pour la petite anecdote, Nathalie, quand vous parliez de Devernois, juste il y a une salariée qui nous a dit, mais vous avez réussi à traverser deux guerres et le Covid. Donc oui, on est encore là, mais c'est dur. Mais on est encore là et on est passionné.
Alors, Sophie, le Grand Ouest est, pour les gens qui travaillent dans la profession depuis un certain nombre d'années, un exemple de réseau. On a toujours, depuis que le prêt-à-porter s'est mis en place, la région Grand Ouest n'a pas cette histoire textile que peuvent avoir la région Rhône-Alpes ou le Nord, mais depuis les années 60-70, les premières entreprises qui ont suivi et accompagné le développement du prêt-à-porter, il y a toujours eu cette idée de réseau et d'entraide. Je crois que vous avez vous-même initié pas mal de choses au sein de la région sur la formation, justement, hein, ce qu'on évoquait dans les autres régions. Donc, ça a toujours existé, ce réseau. Mais aujourd'hui, en quoi il est différent, autre que celui d'il y a 20 ans, et pourquoi c'est toujours aussi important?
Alors, effectivement, comme vous le rappeliez, donc moi, je suis là pour représenter Mode Grand Ouest. Hein, donc, nous, notre siège est à Cholet. Et notre métier, c'est de fabriquer des vêtements. Donc, on embauche des couturières. Mode Grand Ouest, c'est environ une centaine d'entreprises adhérentes et 4500 salariés. Donc, je souscris tout à fait aux histoires qui ont été racontées. Nous, dans la confection, on a aussi vécu cette histoire, celle de, j'allais dire, des 30 glorieuses dans les années 80, avec des ateliers qui faisaient 200 personnes dans tous les coins de la Vendée, du Choletais et dans toutes les régions de l'Ouest. Et aujourd'hui, donc, on a vécu cette désindustrialisation qui a commencé dans la fin des années 80. Et aujourd'hui, donc, effectivement, on est dans une autre tendance où nos ateliers se sont réduits. On n'est plus concurrents parce que chacun a son savoir-faire. Et on a toujours travaillé en réseau. Et Mode Grand Ouest, je ne sais même pas la date d'existence, mais existe depuis très, très longtemps. Donc, en fait, aujourd'hui, nous, ce qui nous anime, c'est d'être aussi tourné vers l'innovation. Parce qu'en fait, j'allais dire, la formation, ça fait des années qu'on a mis en place en fait, des actions de formation sur lesquelles on peut trouver des financements et donc pouvoir réutiliser toutes les taxes qu'on paye en tant qu'entreprise pour la formation, pouvoir les réutiliser à bon escient. Alors nous, on a la chance qu'il y ait encore des formations initiales qui existent dans les métiers de la mode. Notre problème aujourd'hui, c'est que le programme des métiers de la mode n'est pas du tout adapté aux besoins des entreprises. Nous, dans une entreprise, je vais citer la mienne en exemple, la société GTEX, on est une soixantaine de salariés en France. J'ai 85% de mes effectifs qui sont sur des machines à coudre. Et la formation initiale actuelle, on demande aux étudiants de maîtriser tous les postes de mon entreprise. Donc de savoir faire un vêtement, de savoir calculer un prix, de savoir faire une gamme, de savoir aller voir les clients. Enfin, c'est tout simplement impossible de demander à un étudiant avec un BTS ou un bac pro de maîtriser toutes ces tâches. Donc le rôle de Laurent Vandenborre, le délégué général de Mode Grand Ouest, entre autres, c'est de, on est en train de revoir justement ce programme de formation pour qu'il soit plus adapté à nos entreprises. Il faut savoir que quand on recrute une mécanicienne en confection, puisque les couturières, dans notre métier, on les appelle des mécaniciennes en confection, nous, on va les former encore pendant 2 ans dans notre entreprise, parce qu'en fait, avec leur formation initiale, elles vont maîtriser les tâches de base, on va dire, de maîtriser la machine à coudre industrielle. Mais après, il faut apprendre le savoir-faire de l'entreprise, qui est différent entre chaque atelier, et ça, ça prend 1 an et demi à 2 ans. Donc nous, je dirais bien que ça fait plus de 10 ans qu'on a des dispositifs de formation qui nous permettent de faire ça. Là, maintenant, on s'attaque au programme des formations initiales. Donc c'est un autre chantier parce que c'est avec le gouvernement, le ministère de l'Éducation, etc. Donc Mode Grand Ouest, c'est vrai que c'est ça, mais c'est aussi plein d'autres choses. C'est de la communication. En fait, depuis 10 ans, on communique pour redorer le métier de la confection parce qu'on n'est plus dans du travail à la chaîne. Aujourd'hui, 80% des adhérents de Mode Grand Ouest travaillent pour le secteur du luxe, c'est-à-dire pour des marques de luxe qui ont fait le choix de fabriquer des vêtements en France. Nos principaux concurrents, ce sont les Italiens et les Portugais. Donc on n'est pas concurrents entre nous. Et aujourd'hui, je pense que le grand virage qui est en train de se passer, c'est que nos marques de luxe ont des volumes vraiment très importants et qu'elles recherchent de la capacité en France. Et qu'en France, on a la qualité, on a un vrai savoir-faire. Et je dirais que là où on est aussi dans un nouvel élan, c'est grâce aussi aux mesures qui ont été prises par le gouvernement avec le plan de relance, avec les PGE. Et je pense que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, c'est ce qui va faire la différence entre les entreprises françaises et les entreprises italiennes. Donc aujourd'hui, voilà où on en est. Alors moi, je viens de prendre le mandat pour une durée de 3 ans sur ce groupement. Donc je fais ni plus ni moins que de continuer la stratégie qui a été celle de Mode Grand Ouest depuis des années. Moi, j'ai repris aussi l'entreprise de mon père. Donc on est vraiment dans une ambiance familiale et on est proches les uns des autres. Et donc la feuille de route que je me suis donnée, c'est aussi d'aller vers l'innovation. Donc, c'est peut-être qu'il va faire le relais avec Isabelle.
Oui, puisque dans le cadre des projets portés par Mode Grand Ouest, il y a un projet qui est Innofab Mode, dont vous êtes la coordinatrice, Isabelle, au sein de l'IFTH.
Tout à fait. Je me présente. Donc, Isabelle, je suis arrivée il y a 6 mois au poste de l'IFTH pour un sujet qui était donc, l'Institut français textile habillement, pour un sujet très novateur pour le monde de la fabrication. C'est vraiment un projet d'innovation qui modernise l'atelier. L'objectif, c'était à la fois d'amener l'industrie, une industrie différente par la visionique, par la chaîne numérique, parce que autant on connaît une digitalisation au sein de grands groupes, au sein d'ateliers très performants, autant au niveau d'un petit atelier, il était nécessaire d'amener une chaîne numérique flexible, adaptable, et de savoir aussi en parallèle à ça, apporter un bien-être aux salariés. Donc il y a on va dire qu'il y a 3 dimensions. Il y a la partie numérique, la partie on va dire cobotique, organisation, mais aussi la partie d'écoute du personnel et comment faire remonter cette information qu'ils ont, puisqu'ils ont tous une connaissance, pouvoir ensuite la transmettre et la développer via des organismes, donc par exemple comme l'IFTH, qui peuvent vous aider dans ce sens-là à capter tous vos besoins et à pouvoir les retransmettre. Ce projet, il faut savoir qu'il n'a pas été initié subitement. Il fait partie d'un très fort rapprochement et d'une très grande collaboration avec Mode Grand Ouest, parce que l'IFTH était présent sur la région et était très proche, on va dire, de façon physique, mais aussi très proche par les objectifs qu'ils avaient en commun. Et c'est cette collaboration, ce rapprochement, qui a permis de créer des commissions c'est une commission innovation, mais qui permettait de regrouper tous les enjeux de développement et de réponse directement aux entreprises. À ce stade-là, il est important de comprendre qu'on n'était pas deux. Il faut aussi savoir recréer un maillage. Alors, le maillage local, on l'avait, mais il fallait un maillage aussi technologique. Et là, on a pu s'appuyer sur des prestataires, des fabricants de matériel. Et c'est important donc, de pouvoir développer aussi cette relation que l'on a avec des gens qui ne sont pas forcément sur le secteur de l'habillement, mais qui peuvent rapidement intégrer de nouvelles technologies, enfin, nous faire intégrer des technologies et mettre en commun cette évolution.
Donc là, le réseau dont vous parlez, donc qui est actif au sein d'InnoFab Mode, ça va être à la fois des entreprises, oui, mais aussi un réseau de structures extérieures, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Donc, c'est un écosystème.
Ce réseau, alors, il y a qui dedans?
Alors, cet écosystème, donc on a dit effectivement, c'est les entreprises, parce que sans l'entreprise, on ne peut rien bâtir. Il est important d'écouter les besoins, de pouvoir donc les retranscrire, les consolider, les partager et ainsi pouvoir construire une ligne directrice. Et en termes de réseau, l'IFTH a une forte capacité à trouver des relations, on va dire, dans le monde de la recherche publique, mais aussi dans des mondes complètement différents, le monde universitaire, ce qui permet aujourd'hui d'essayer de trouver le meilleur axe de progrès en fonction des sujets.
Et alors, quand on est chef d'entreprise, donc on participe à un réseau, quand on est responsable d'institution, on anime des réseaux, comment on trouve le temps, comment on fait, quel conseil donner par rapport à ça pour être un bon animateur de réseau ou un bon profiteur, enfin c'est pas le bon terme, profiteur, mais être retiré le maximum en tant que participant.
Ne compte pas sur moi pour donner un conseil pour être bon animateur de réseau, je n'aurai pas cette prétention. Par contre, moi je constate dans mon petit groupe de René ou dans le club des tricoteurs ou dans le syndicat en général, la condition nécessaire et suffisante pour faire tourner un réseau, c'est la confiance. La confiance, pas entre les entreprises, entre les dirigeants ou les responsables d'entreprises qui vont participer au réseau. Quand il y a la confiance, on déplace les montagnes, il n'y a pas de problème. Mais la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne dans le temps. Et si jamais elle doit être trahie, c'est impossible de revenir en arrière. Mais pour moi, enfin, je n'ai pas de conseil, mais vraiment, cette notion de confiance, elle est essentielle pour que le réseau fonctionne, qu'on puisse partager des infos, des machines pour se dépanner.
C'est de la confiance et de la discrétion. En fin de compte, les réseaux, ils peuvent. C'est de la discrétion aussi, c'est de la confidentialité, c'est. Le réseau, il peut être informel, presque un peu. Il est pas.
Évidemment, il faut de la confidentialité. On met pas sur la place publique ou. Moi, je reviens quand même sur cette notion de confiance. Je ne sais pas si vous voyez d'autres caractéristiques.
C'est vrai que. On est comme toi, on a tous des agendas qui sont compliqués et du coup, c'est le truc, on sait qu'il faut qu'on le fasse et en même temps qui se rajoute et qui vient souvent en bas du truc. Donc je pense que pour nous, le club des tricoteurs, Eric, t'es vraiment pour moi le ciment entre nous tous, t'es celui qui a rassemblé les différentes adresses mail, qui a dit mais tiens il y a un tel qui veut rentrer, qui fait ce lien. Donc le fait d'avoir un animateur qui soit aussi généreux qu'Eric, pour nous c'est vraiment le truc. C'est vrai que l'idée aussi d'un club des tricoteurs, elle est née au tout début du Covid, du premier confinement, où l'État nous a demandé vite de fabriquer des masques. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un au ministère qui m'avait appelé, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous foutez les tricoteurs ? Mode Grand Ouest, ça fait déjà 3 semaines qu'ils nous ont filé un truc. » Et en fait, mes modes Grand Ouest, parce qu'ils étaient déjà organisés, ils étaient déjà entre nous. Moi, je savais, j'avais un programme en jauge 12, j'en avais un en jauge 8, j'en avais pas en jauge 10, donc mes jauges 10 tournaient pas, mes jauges 7 tournaient pas. Et à un moment donné, je me dis, mais comment je fais pour demander qui a une jauge 10, qui a une jauge 7? En fait, on était seuls avec nos. bon, nous, au moins, on avait nos trois boîtes. On a appelé Séverine parce que Séverine est à Rouen. Mais en fait, il y avait tous les autres qui étaient en train de développer des trucs. Et nous, on était d'accord pour s'échanger les produits. Enfin, il fallait aller super vite. C'était un marché qu'on savait. Bon, on ne pensait pas que ça allait durer aussi peu de temps. Mais on savait qu'il fallait aller vite. Et on a eu un retard au démarrage parce qu'on n'avait pas ce truc qu'avait Mode Grand Ouest, dont on est très, très, évidemment très, très admiratif. Donc c'est surtout peut-être à toi, Sophie, à nous dire comment ça fonctionne chez vous. Moi, je pense que voilà, le fait qu'on ait un ciment qui en plus hors fédération, parce que je pense que dans le club des tricoteurs, il y en a qui adhèrent à la fédération de la maille, d'autres à l'UIT, machin, d'autres à l'UIT. Donc on paye tous à des endroits qui ne sont pas les mêmes.
Et en fait, pas adhérents du tout. Il n'y a pas d'ostracisme.
Voilà. Et il y a Eric qui fait le lien entre tous ces gens-là qui adhèrent donc à différentes fédérations, mais qui partageons aujourd'hui des mêmes problématiques. On fabrique, on tricote en France, et en tricotant en France, on a les problématiques de recrutement de programmeurs, on a les problématiques au niveau de la confection, de moderniser notre confection, parce qu'on confectionne aujourd'hui exactement comme il y a 40 ans, parce qu'on n'a pas eu un euro à investir sur nos ateliers de confection. Donc, on fait avec nos vieilles machines. Mais si on va en Turquie, je pense que les ateliers turcs sont bien, bien mieux équipés que nous. Donc là, il va falloir qu'on comprenne comment aujourd'hui les ateliers de confection maille se sont développés. Je pense qu'on peut poser aujourd'hui un col pratiquement tout seul. Donc aujourd'hui, c'est encore chez nous manuel. Donc on a tous ces trucs-là. Et je pense que voilà, il faut qu'il y en ait un ou deux qui aillent voir telle usine en Turquie, l'autre qui aille voir, enfin, qui partage un peu ces différentes expériences et qui fasse qu'on avance. Et voilà, ils nous font un lien, et ce lien-là aujourd'hui, c'est Eric, et vraiment on te remercie. Et il y a cette volonté et ce non-choix qu'on a tous, mais ça nous permet de faire remonter au top de nos priorités. Parce que c'est important, il faut qu'on se modernise, il faut qu'on ait des salariés encore dans 10 ou dans 20 ans et qu'ils soient correctement formés. Donc il n'y a pas le choix. Et ce réseau nous permet de cocher quand même pas mal de cases dans ces avancées.
Et vous êtes toutes les trois des chefs d'entreprise avec des responsabilités de faire tourner cette entreprise, des salariés derrière. Comment on trouve le temps de faire ça en plus ?
Ben écoutez, moi c'est vrai que je suis dans plusieurs réseaux, pas seulement en Mode Grand Ouest, hein, mais je pense que la question principale pour moi en tout cas, c'est la question du sens. Donc je veux dire par là que voilà, quand on décide de prendre la présidence d'un groupement professionnel qui est un poste bénévole, hein, quand même, je tiens à le souligner, ça veut dire qu'on se pose beaucoup de questions, mais on y va parce qu'on est là pour défendre notre profession et donc indirectement pour défendre nos salariés et pour être en contact avec un écosystème, comme le disait Isabelle, avec d'autres secteurs d'activité, avec d'autres entreprises. Et donc effectivement, ça prend du temps, il faut s'organiser. Alors moi, personnellement, j'ai pu structurer, ça fait 10 ans maintenant que j'ai repris l'entreprise de mon père. Donc j'ai structuré mon entreprise pour pouvoir aller à l'extérieur parce que j'en ai besoin et parce que je ne vais pas une seule journée dans un des réseaux dans lesquels je suis sans revenir avec un truc concret pour mon entreprise. C'est-à-dire que je ne vais pas me balader, j'y vais parce que j'ai un but et que je veux ramener quelque chose à mes salariés ou ramener quelque chose à mes adhérents pour que ça serve la profession et que ça serve leur travail. Donc après, effectivement, ça prend du temps, mais en fait, je pense qu'on y gagne. Et on va beaucoup plus vite en fait. Et enfin, moi je suis aussi donc dans un autre réseau que j'aime beaucoup, donc je vais le citer, c'est l'APM, peut-être certains d'entre vous le connaissent, l'Association pour le Progrès du Management. Ce qui est très enrichissant dans ce réseau, c'est un peu ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est qu'on est avec des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes secteurs d'activité que nous, puisqu'on ne peut pas être deux du même secteur d'activité dans un même groupe. Et en fait, on s'apporte énormément de choses, c'est-à-dire qu'on va apprendre sur notre métier avec des activités qui sont à l'opposé des nôtres. Mais on se rend compte que ben, on a les mêmes problématiques et on va trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé parce que on regarde les choses différemment en fait. Donc je dirais que moi c'est d'abord le sens, puis ben, après c'est rapporter quelque chose à ses salariés quoi.
Oui, vous touchez du doigt tout à l'heure, vous disiez comment on fait en tant qu'en chef d'entreprise et effectivement le fait de travailler dans ces réseaux et d'œuvrer dans ces réseaux. Moi, je suis l'exemple type du chef d'entreprise qui est engorgé dans le quotidien et qui a relativement peu de temps. Et c'est tellement important parce que, comme vous dites, c'est tous ensemble. Bon, je m'occupe de Maya Campus, qui est le CEPITRA et le regroupement du CEPITRA et Créatech. Et voilà, c'est effectivement, il faut qu'on s'organise pour en fait travailler, œuvrer ensemble pour l'avenir de cette filière dont on parlait, où il y a tellement de demandes, où il y a tellement de passion en fait dans cette filière. Effectivement, donc s'organiser et la confiance dont vous parliez en fait, Eric, elle est capitale. Et je pense que maintenant, du fait de toutes ces crises que l'on a traversées, tout le monde a pris des cheveux blancs, tout le monde, enfin. On est adulte et maintenant on ne se tire pas dans les pattes. C'est vraiment, allez, on se prend par la main, on se prend par le bras et on y va parce que la première chose qu'on veut avant toute chose, c'est défendre voilà, notre savoir-faire, nos métiers, nos salariés avec qui on travaille au quotidien. Donc il n'y a plus cet état d'esprit qui pouvait avoir lieu à une certaine période. Là maintenant, on est là, on est fiers et on veut tous bosser ensemble.
Je peux confirmer, j'allais vous dire également, je peux rebondir également, avec mon petit recul dans la profession, il y a quelques décennies en arrière, il y avait une concurrence très forte entre les activités et les entreprises, et du coup, c'était chacun chez soi. Surtout, on ne se visite pas, on ne se parle pas, etc. Et aujourd'hui, ce que je voulais dire par rapport au réseau, et ce que tu disais tout à l'heure en introduction, on peut encore être concurrent sur certains marchés, même s'il y a de plus en plus des savoir-faire individuels, en guillemets, on peut se tirer la bourre chez tel et tel client. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, en back-office, on va partager, on va se parler, voire se visiter les uns les autres. Et ça, c'est nouveau et c'est aussi une condition ou une conséquence peut-être du réseau.
Je souhaitais juste rajouter, et c'est vrai que cette ouverture, on la voit énormément au niveau des entreprises, et ça nous permet, nous, en termes d'animateurs, de pouvoir aussi créer des structures telles, nous, ce qu'on a créé au sein d'InnoFab Mode, qui s'appelle le cluster, et qui permet aujourd'hui de bien écouter, parce que c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est d'écouter le besoin et de le clarifier, d'apporter des solutions et de les donner et de les partager à tous. Parce que c'est ça, la réalité, la force d'animer un réseau, c'est le partage, et le partage d'informations qui doivent rester, on parlait de confidentialité à un moment, ce n'était pas cette notion de confidentialité, parce que chacun en prend, en retient ce qu'il en veut, et le développe de son côté avec sa propre personnalité. Mais l'importance d'un cluster aujourd'hui, c'est-à-dire d'un organisme qui permet de collecter des informations et de les redonner, je veux dire, en temps réel, ou en tout cas d'être capable de s'approcher d'un CTI tel l'IFTH pour pouvoir structurer une réponse et pouvoir la diffuser, c'est très important. Voilà. Pour moi, un réseau, c'est d'abord ça.
Et alors, comment on fait pour être proche de son réseau? C'est des lettres d'information? C'est un portail sur lequel les gens vont? C'est un lieu de rencontre? C'est systématiquement des réunions tous les premiers mardis du mois ou qui vient qui veut? Est-ce qu'il faut effectivement avoir un moyen d'identifier les besoins des entreprises, mais après de faire redescendre aussi les informations? Comment on fait ça?
Je veux bien faire une pirouette, comme souvent. Le club des tricoteurs, c'est récent. Donc, je dis, on est en train de constituer notre base de matériel, de savoir-faire, de parc-machine. Moi, ça m'intéresse plus step by step. Je préfère constituer ma base et après, on réfléchira, mais on peut le faire en même temps, à la façon dont on la diffuse et dont on la met à disposition des entreprises, parce que la finalité, c'est quand même que les entreprises en profitent. Mais au-delà de ce que tu évoques, sous-entendu, de la communication collective, c'est-à-dire descendante ou même remontante, mais tout le monde la même. Moi, ce qui m'importe dans les réseaux en général, c'est qu'entre deux réunions, entre deux meetings, les entreprises se connectent entre elles sans passer par l'animateur ou l'outil, etc. Et c'est là où on voit que le réseau fonctionne, c'est justement quand il y a du one-to-one qui se développe.
De la mise en relation. Membres.
Alors, à Mode Grand Ouest, justement, alors nous, on a des conseils d'administration une fois par trimestre, donc où on est une vingtaine de chefs d'entreprise. On a des réunions de bureau pour, on est six, rapprochés pour gérer le groupement. Ce qu'on a mis en place, là, dans le nouveau mandat qui est en train de démarrer, c'est qu'on fait des réunions en région, parce qu'en fait, il faut voir qu'on va du sud de la Normandie jusqu'au nord de Bordeaux, et que donc la région est très grande, et pour les ateliers qui sont éloignés de Cholet, c'est compliqué de toujours être à Cholet. Donc, en fait, on met en place des réunions réunions décentralisées, là, d'ailleurs, auxquelles on convie l'IFTH pour parler d'InnoFabMod, parce qu'InnoFabMod, c'est que 6 entreprises pilotes. Et l'objectif, c'est de disséminer ce qu'on met au point dans le cas d'InnoFabMod à l'ensemble des ateliers qui veulent aller vers ces solutions. Donc là, on met ces réunions régionales. Donc là, il y en a peut-être 6 de prévues d'ici le mois de janvier pour justement recréer du lien. Donc je dirais que c'est un peu la nouveauté, quoi. Et sinon, après, on a des commissions thématiques, donc la formation, l'innovation, enfin tout un tas de sujets, où là, les gens vont se réunir en dehors des conseils d'administration pour parler des différents sujets. Et ce que je voudrais dire aussi par rapport à la crise, c'est que ça nous a, le fait de tout faire en visio là pendant un an, finalement, je pense que ça a été accélérateur pour certains sujets, parce que quand il faut faire 1h30 de route pour aller à une réunion qui va durer 2 heures et que donc ça prend 3 heures de trajet, ben on perd quand même beaucoup de temps, quoi. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on fait un mix entre de la visio et du présentiel, et du coup je pense qu'on va continuer à aller plus vite sur certains sujets, quoi.
Avant de donner la parole à la salle, parce que on pourrait encore rester, mais on ne pourra pas, parce qu'après, il y a une autre conférence, etc. Il faut faire attention. Mais est-ce que vous avez envie d'évoquer quelque chose qui peut encore plus convaincre chacun de soit de mettre en place l'animation d'un réseau, soit de participer à des réseaux, quelque chose qui peut encourager tout le monde ou est-ce qu'on donne directement la parole à la salle? Un petit mot de conclusion.
Alors, peut-être un petit mot de conclusion, c'est l'industrie change. Déjà, il y a 4 femmes et un homme. Et Fédération de la Maille, je crois que je suis la première à avoir été élue en tant que femme, mais même au bureau, hein, même pas au bureau, en tant que conseil d'administration. Donc, voilà, on vient d'un monde quand même qui était un monde d'hommes et qui devient aujourd'hui plus mixte. Et je pense que, comme partout, c'est pas mal. On peut apporter des choses les uns aux autres. Et peut-être que c'est un petit peu féminin, le côté réseau, le côté tout ça. Au-delà de la politique, on aime bien. Je sais pas. Je pense que ça, il doit y avoir quelque chose à voir quand même là-dedans. Et l'autre truc aussi pour conclure, aujourd'hui, moi j'étais la première il y a 10 ans à me dire mais jamais je bosserai dans le textile, quoi. Jamais, jamais, jamais. Pour moi mon grand-père avait fait faillite. Et depuis ça allait, c'était de pire en pire. C'était vraiment un secteur à éviter. Aujourd'hui, je le dis vraiment avec énormément de plaisir, c'est un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur où il se passe tellement, tellement de choses, où il y a des boulots pour tout le monde. Séverine, je pense que, et Sophie, les gens qui bossent avec nous, mais que ce soit les mécaniciennes en confection, ou ceux qui sont aux expés, qui voient toutes ces commandes qui arrivent, ou les programmeurs et les bonnetiers et les bonnetières, franchement, ils sont heureux. Moi, j'ai l'impression que dans nos usines, on file du boulot à des gens qui ensuite sont heureux. Et je ne suis pas sûre que tous les chefs d'entreprise puissent dire ça. Et c'est vraiment un truc qu'il faut aujourd'hui transmettre aux jeunes générations, leur dire c'est des chouettes métiers, apprenez-les quand vous êtes en seconde, en première, en terminale ou juste après pour le BTS. C'est des métiers qui valent le coup. Et je pense qu'on est là, parti sur un chemin qui est un joli chemin et qui ne va pas s'arrêter. Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est important de dire qu'on est heureux dans nos boîtes.
Pas conclure autrement, de façon aussi positive et aussi axée sur l'avenir. Alors, on laisse la parole à la salle. Ce que je vous demanderai, c'est l'hôtesse qui va vous présenter le micro que vous ne devez pas toucher. Et je vous demanderai juste de vous présenter avant de poser votre question. Mais par contre, il n'y a que nous qui enlevons notre masque.
Je suis Gilles Muller et comme je viens d'entendre ce qu'on vient de dire, donc la première question est posée par un homme, si vous permettez, mesdames. Non, vous me faites fort plaisir en disant ce que vous dites, Eric le sait, nombre de personnes le savent. Nous avions monté il y a quelques années, il y a 20 ans, un réseau, le réseau d'innovation immatérielle pour l'industrie qui fait la conférence, qui suit la vôtre, n'est-ce pas ? On avait l'impression que c'était un sentiment moderne qui partait de la volonté de chefs d'entreprise implantés dans les régions. Ce jeune homme le sait, toi tu le sais également. Donc, je voulais vous féliciter. Je crois qu'au-delà de la confiance, il y a l'idée de moderne, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il faut que les chefs d'entreprise s'impliquent. Moi, j'ai fait une carrière dans les organisations professionnelles. Il faut que le chef d'entreprise s'implique. Il a tout intérêt à le faire, n'est-ce pas ? Et vous l'avez dit à plusieurs reprises, donc je voulais simplement vous féliciter. Et je relève quand même ce point qui est très important et qui m'inquiète d'une certaine manière, parce que je le vois dans d'autres secteurs, ce problème de formation, au moment où il me semble qu'en grande partie, la puissance publique se dégage. Dans d'autres métiers qui sont proches des vôtres, par exemple l'école Boulle, aujourd'hui, les heures d'atelier ont diminué. Donc je pense qu'il y a peut-être une organisation ou un message à faire passer vers les pouvoirs publics qui s'intéressent à nos secteurs, à nos savoir-faire, enfin, ceux de l'art de vivre en général, dont la mode est le plus bel exemple, sur justement cette problématique de la formation. Parce que si on veut attirer des jeunes, il faut leur proposer des choses intéressantes. Et il y a une vérité dans la matière, donc dans l'atelier. Merci.
Alors, je dirais formation, mais également d'attirer des gens, parce qu'on peut aussi ne pas prendre quelqu'un qui sort du lycée. On peut attirer quelqu'un qui était dans une autre activité ou qui n'a plus d'emploi et qui viendrait. Mais comment le former et comment faire en sorte qu'il soit efficace assez vite? Donc ça, c'est...
Ben, en fait, il y a déjà des dispositifs qui existent hein, pour former des demandeurs d'emploi ou des personnes qui veulent se reconvertir. Donc, il y a Pôle emploi qui propose des formations. En fait, nous, dans la confection, c'est des formations initiales qui vont durer 3 mois, par exemple. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est des formations dans lesquelles les personnes vont apprendre la base de la machine à coudre industrielle. Mais derrière, nous, on va encore passer un an à les former dans nos ateliers. Donc, c'est là où on a besoin de dispositifs voilà, pour nous aider dans cette formation, quoi.
Ouais. Ouais, tout à fait. Laurent.
Oui, bonjour à tous. Laurent Vandenberg, Mode Grand Ouest. C'est un débat qui est ouvert au CSF et qui sera alimenté dès demain matin par un échange qui est programmé avec Bercy, qui nous consulte sur les sujets du mentorat, du tutorat et des écoles de l'industrie. Donc évidemment, ce ne sont pas des sujets qu'on découvre. Et là où tu as tout à fait raison, c'est que notre préoccupation, c'est qu'on à la fois... On a des injonctions gouvernementales de ce qu'il faudrait faire pour faire ça mieux. Et en même temps, toutes les règles de prise en charge des dispositifs de contrat de professionnalisation, d'exercice de la fonction tutorale et de formation, j'allais dire, intra-entreprise, sont plutôt focalisées vers l'exclusive apprentissage. Et la difficulté de notre secteur particulier, c'est qu'en ayant divisé ses effectifs par 10 ces 20 dernières années, nous avons mécaniquement divisé les effectifs des centres de formation et des formateurs, et que donc au moment où cet élan va repartir, est en mouvement, il faut aller vite dans la façon d'intégrer les personnels. Donc on sollicitera des mesures souples, innovantes et associant directement les entreprises, plutôt que de construire des murs et de racheter des machines, j'allais dire. L'idée, c'est plus d'aller vers du souple et innovant. Donc voilà, en tout cas, on a bien conscience de cette délicate exercice à faire et on le portera, j'allais dire, pour essayer d'obtenir une cohérence entre le message reçu de ce qu'il faudrait faire, quelque part, et les règles qui permettent de le faire. Je rappelle que si nous n'étions pas en crise, les plus de 50 salariés n'ont plus d'accès à la formation, au financement de la formation professionnelle de leurs salariés, de façon très réduite aujourd'hui, et que donc c'est des vrais sujets, en tout cas, qui sont un peu incohérents entre l'injonction d'intention et puis les moyens réels mis à disposition. Tu as tout à fait raison sur ce sujet.
Bonjour, donc Sandrine Arnaud de Société Moulinage du Plouy, dans les Hauts-de-France. Donc, je connais très bien Eric et donc on partage énormément justement. Moi, ma société est beaucoup plus en amont, hein, d'accord, parce que nous sommes mouliniers texturateurs. Et par rapport à vos réseaux, justement, je voulais savoir en termes de relocalisation, mutualisation, etc. Est-ce que vous impliquez aussi des gens qui sont beaucoup plus en amont par rapport à vous? Voilà la question.
Alors, là aussi, encore une pirouette. J'allais faire une réponse inverse, mais je retiens la question. En fait, ce qui est en train de se passer au niveau des tricoteurs, ma réflexion, notre réflexion avec l'UIT, c'est de le dupliquer au niveau des ennoblisseurs, avec tout le groupe d'ennoblisseurs qu'on a encore en France, et c'est un maillon essentiel. Au niveau des tisseurs, il y a plein de savoir-faire différents au niveau des tisseurs, éventuellement au niveau des filateurs également. Donc, c'est plutôt une réflexion actuellement plutôt verticale par activité. Mais, alors je voulais aussi rebondir, private joke, on a créé, il y a, justement le Covid, il y a 2 ans, tu l'as dit Nathalie dans la présentation, l'UITH. l'Union des industries textile et habillement. On a même fusionné le textile habillement, c'est la seule région où les deux sont en une seule structure. Après s'être fiancé pendant quelques années, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Quand on l'a fait, tous les industriels se sont félicités et se sont dit, il n'y a pas de retour en arrière, on est fusionné, on travaille ensemble, textile et habillement. J'ouvre une parenthèse, on a un député un jour qui nous a dit, on a le meilleur système de santé du monde. Pendant le Covid, on l'a vu, heureusement qu'on avait notre système de santé. Sauf qu'il n'y a aucun pays au monde qui nous a copié notre système de santé. Et j'ai envie de dire, notre UITH qu'on a fait il y a 2 ans, on a reçu énormément de messages de félicitations, d'encouragement, en disant, c'est super, vous êtes dans la bonne voie. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est pas beaucoup copié au niveau du réseau textile-habillement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les industriels qui le vivent au quotidien, eux, se félicitent tous les jours d'être ensemble entre le textile et l'habillement. Donc oui, il y a un intérêt, en dehors de nos secteurs d'activité, tissage, filature, ennoblissement, tricotage, il y a un intérêt à jouer en transversal et à partager le réseau en transversal, je confirme. Oui. Tu es d'accord ?
Oui, oui, je suis d'accord. En fait, et il y a plusieurs... Quand je suis rentrée à la Fédération de la Maille, je me suis rendu compte qu'en fait, à la Fédération de la Maille, à l'époque, il y avait que des fabricants français. Et puis, à un moment, il y a eu la désindustrialisation, tout ça. Et il y a des fabricants qui sont restés fabricants, mais qui fabriquent à l'étranger et qui ont peut-être développé des réseaux de distribution, enfin des choses qui sont différentes de ce que moi, je faisais de mon côté. Et du coup, à un moment donné, je me disais, on se met dans la même salle, mais en fait... Moi, je m'en fiche que le dollar il bouge. Enfin, j'ai vraiment pas du tout les mêmes problématiques. Ils ont des problématiques entre eux, on a des problématiques entre nous. D'où ce club des tricoteurs où on a vraiment les mêmes problématiques parce qu'on est sur le même truc au même moment et tout ça. Mais je pense qu'en effet, les tisseurs français ont tous aussi des problématiques qui ressemblent à des problématiques de tisseurs, mais qui sont aussi peut-être des problématiques de tisseurs et tricoteurs. Donc je pense qu'à un moment donné, en effet, il faut qu'on ait un club des fabricants français, qu'ils soient tisseurs, tricoteurs, tout ça. Mais mettons chaque club se monte en dehors d'un besoin de fédération, de bureaux, de machin, de trucs. Des clubs qui existent, qui ont les mêmes problèmes les uns avec les autres et avec peut-être un problème de fabricants, un club de fabricants français sur le territoire français qui regrouperait un peu tout le monde, en effet.
Avec cette idée de filière, puisque vous dépendez aussi de fils, d'approvisionnement de fils.
Tout à fait, le fil.
Donc, ouais. À un moment ou à un autre, il y a une préoccupation de fils ou peut-être de fils moulinés. Je ne suis pas sûre que vos fils moulinés vont être tricotés en rectiligne. Ce n'est pas les mêmes marchés. Mais à un moment, il y a effectivement, sur certains sujets, cette problématique de filière.
Peut-être pour
le réseau permet. Pardon. Il y a le réseau effectivement qui est au sein en fait d'un même savoir-faire, si vous voulez, d'un même groupement d'entreprises. Et à la fois, enfin, et ces réseaux permettent aussi, quand on parle justement de filière, vous parlez de filature, grâce à ce réseau qui est transversal sur tout au long de la filière, on a réussi l'année dernière à faire en fait un modèle en maille à partir de moutons français où la filature était française, qui a été tricotée chez nous au coteau. Et qui a été fabriqué au coteau. Et on se dit, mais c'est grâce à tout ce réseau qu'on est arrivé à monter ce produit qui a failli mais 20 fois ne pas voir le jour parce qu'on a eu plein d'embûches, de problèmes pour tricoter ce fil qui est fait à partir de moutons trop rêches parce qu'ils n'ont pas été élevés pour ça. Mais voilà, tous ensemble, parce qu'il y a l'ardeur et la passion de ces associations et de tous ces chefs d'entreprise, et pas que les chefs d'entreprise, tous les salariés, parce qu'il y a la passion. Ce produit, cette veste a vu le jour et a été plébiscité. Donc on se dit, c'est du mouton français qui a brouté la française et qui est arrivé jusqu'au produit français. Mais tout le monde était trop fier. On se dit, on y est arrivé, alors que plusieurs fois, on se dit, allez, stop, on arrête. Et tout ça, voilà. Les réseaux, en fait, aident, cette entraide, en fait, aide.
C'est ce que j'allais dire. On a un très bon exemple en réfléchissant. C'est Tricolore au niveau de la laine française, puisqu'on associe y compris les éleveurs de moutons. Les peigneurs, laveurs, peigneurs, filateurs, tricoteurs.
Avec eux, justement, avec le collectif Tricolore, donc le réseau.
Superbe expérience où chacun, tout le monde apporte sa valeur ajoutée, tout le monde collabore. C'est remarquable, c'est un très bon exemple.
Alors, une autre question.
Bonjour, Marine Regnault. J'ai une question, mais c'est plus en lien avec les salariés. Est-ce que vous pensez qu'en fait, ça pourrait être intéressant ou une solution de pouvoir aussi mettre en réseau les salariés via les entreprises. Parce que vous évoquiez, une d'entre vous parlait du fait que les salariés, en fait, tous les 3-4 ans, vont forcément plus ou moins changer d'entreprise. Pour autant, il faut 2 ans à peu près pour acculturer le salarié à la spécificité de l'entreprise. Donc, est-ce que finalement, avoir peut-être un réseau inter-entreprise pour permettre une mobilité aux salariés avec une évolution des compétences et créer un parcours pourrait être un avantage et peut-être une solution ? Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça peut être quelque chose qui serait peut-être intéressant ?
C'est une très bonne question. Alors, en fait, il y a deux volets dans votre question. En fait, on fait de la mise en réseau beaucoup, nous, au niveau de nos mécaniciens machines à coudre. Parce qu'en fait, nous, dans notre métier, c'est la couturière à 50%, c'est sa dextérité, son savoir-faire, mais c'est aussi 50% de réglage machine. Je vais parler d'abord des mécaniciens régleurs. Donc, c'est un métier fondamental chez nous, sachant qu'il n'y a aucune école qui existe pour les former. Donc c'est nous, les entreprises, qui les formons. C'est grâce aux salons professionnels qui se forment et grâce à nos fournisseurs de machines. Et donc nos mécaniciens, en fait, ils ont un club entre eux qui n'est même pas organisé par Mode Grand Ouest parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils se dépannent, parce qu'ils s'appellent quand ils ont un souci sur telle et telle machine. Et donc ça, ils le font déjà naturellement. Alors c'est peut-être aussi nous, là, une de nos missions à Mode Grand Ouest de mettre en place des choses un peu plus structurées pour les aider. Et après, il y a le sujet des mécaniciennes en confection. Alors là, c'est un sujet beaucoup plus touchy, surtout pour la présidente du groupement, parce qu'en fait, nous, dans notre groupement, on a quand même une charte de bienveillance et de non-débauchage de nos collègues, des salariés chez nos collègues. Donc, je vais vous donner ma philosophie qui n'engage que moi, Sophie Pinault. Hein. C'est que moi, je pars du principe que c'est à nous, en tant que chef d'entreprise, de donner aux gens, d'avoir envie de rester chez nous parce qu'ils sont bien chez nous, parce qu'ils ont des perspectives d'évolution, parce que, comme le disait Karine, les produits qu'on fait sont magnifiques, on fait des produits magnifiques, que nos salariés... Enfin, moi, je viens d'un milieu qui, il y a 10 ans, qui était complètement étranger à la confection. Et quand je suis arrivée, j'étais émerveillée par ce que faisaient les salariés dans mon entreprise. Mais elles n'avaient pas ce regard d'émerveillement parce que elles, c'est leur quotidien, certaines depuis 30 ou 40 ans. Donc en fait, je dirais que c'est à nous, chefs d'entreprise, de leur donner envie de rester et de leur donner envie d'évoluer. Quand je vous disais tout à l'heure que moi, je vais dans les réseaux pour ramener quelque chose à mes salariés, c'est dans le but de les faire grandir dans leurs compétences ou dans leurs envies. Donc après, c'est sûr que peut-être une partie d'entre eux vont rester 3 ou 4 ans. Mais moi, je vois dans mon entreprise, là, je prends l'exemple d'une salariée qui est rentrée il y a 8 ans. Elle était en reconversion professionnelle, une ancienne esthéticienne qui était allergique aux produits. Elle a fait une formation de 3 mois là, dont je vous parlais avec Pôle emploi. On l'a recrutée. Et ben, il y a 3 ans, on l'a promue chef d'équipe. Elle a progressé dans l'entreprise et là, aujourd'hui, elle est chef d'équipe. Et donc, voilà, ça fait déjà 8 ans qu'elle est là. Et je me pose la question différemment. Mais par contre, après, là où on a des relations entre nos salariés, c'est grâce aux formations. Parce qu'en fait, dans notre métier, comme dans tous les métiers, on n'a jamais fini de se former. Donc, en fait, on organise des formations grâce notamment à l'IFTH aussi, hein, qui on fait appel, qui a une expertise, pour former nos salariés durant leur carrière. C'est-à-dire qu'elles vont évoluer. On a, par exemple, des formations pour des chefs d'équipe, des formations pour des formatrices internes. Les mécaniciens, ils vont se former sur le moteur FK, machin. Donc, ils vont se regrouper pour être formés ensemble. Donc, je dirais qu'on essaye de créer de la connexion. Et après, il y a un événement important qui était une grande, grande réussite de mes prédécesseurs à Mode Grand Ouest, c'est qu'on a fêté les 80 ans du groupement, donc je ne sais plus il y a combien d'années, Laurent, il y a 5 ou 6 ans peut-être. Et en fait, on a invité tous nos salariés au Puy du Fou. Alors bon, on est un peu chauvin, donc c'est en Vendée, forcément. Et en fait, tous nos salariés, quasiment tous les adhérents sont venus avec tous leurs salariés. Et ça, c'est vraiment un souvenir qui est très, très fort pour les équipes, quoi. Alors, j'espère avoir répondu à votre question.
Tout à l'heure, dans la salle, quand l'estrade évoquait cette idée que les personnes ne resteraient que 3-4 ans, c'est pas du tout une évidence. C'est juste qu'on se rend compte que maintenant, autant dans les générations précédentes, quand on se disait on va rester dans une entreprise, on fait carrière dans une entreprise et on y reste 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, c'est dans la mentalité, enfin, c'est admis et c'est recherché par beaucoup de gens plus jeunes de se dire ben voilà, je vais peut-être changer complètement de carrière, je vais peut-être effectivement faire mon CAP de couturière, pourquoi pas, après avoir fait de la finance, ou faire mon CAP de pâtisserie, ou élever des légumes. Donc c'est cette idée d'être moins linéaire, mais ce n'est pas du tout une évidence que les gens partent au bout de 3-4 ans. C'est pas, oui, on est pas...
Tout à l'heure, j'ai dit ça, effectivement, ah, ça, je suis allée un peu plus sur 3-4 ans, mais effectivement, comme vous le disiez, entre, on va dire... les anciens et la nouvelle génération a plus envie de bouger, mais comme vous le disiez, à nous de les garder et de les faire monter en compétences. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'important. En fait, ces jeunes, à la fois, sont émerveillés. Là, pareil, on vient d'embaucher une jeune qui dit « mais c'est merveilleux ce tricotage quand on voit ce que l'on fabrique ». Effectivement, les anciens qui sont là depuis 30 ans, ils disent « bon, ça va, c'est notre quotidien ». Et ça fait du bien d'avoir cet émerveillement dans les jeunes recrues qui fait du bien du coup aux anciens en disant ah bah tiens voilà les jeunes qui arrivent elles voient en fait tout ce que l'on fait avec des yeux émerveillés, ça fait du bien. Donc c'est pas pour jeter la pierre aux jeunes, au contraire on a besoin et on est fiers d'eux, mais voilà, ce regard émerveillé dans notre quotidien, si vous voulez, fait vraiment du bien.
Et d'un produit qui certes n'est pas, même s'il est beaucoup critiqué en ce moment sur les aspects de développement durable, reste un produit de plaisir, un produit d'embellissement et qui fait du bien, qui est indispensable à chacun. Donc, effectivement, on est tous, je crois, très fiers de travailler dans ce secteur. Est-ce qu'il y a encore une question ?
Oui, bonjour, Rémi Faye. J'ai une question, j'ai envie de relire un peu ce que vous avez derrière vous écrit. La solidarité inter-entreprise et la volonté d'entraide sont-elles en passe de devenir la nouvelle clé pour le développement du Made in France ? Je me pose, j'ai deux questions. La première, c'est au niveau des fabricants français, ils sont proches de fabricants de maroquinerie qui sont eux-mêmes des zones de handort, comme le groupe LVMH ou Hermès. Est-ce que cette solidarité inter-entreprise existe aussi avec des entreprises qui sont implantées dans les régions ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est finalement, est-ce que cette solidarité inter-entreprise, elle existe aussi avec les donneurs d'ordre ? Et cette capacité à la voie de formation et au défaut d'investissement dans les outils de production ?
Bon, je pense que c'est une question pour moi.
C'est aussi le fait de travailler en réseau. Hein.
Oui. Alors, par votre question, alors, je vais apprendre d'abord la première. Alors, les ateliers, effectivement, on a beaucoup d'ateliers de maroquinerie autour des ateliers de confection. Alors, on a eu des discussions, hein, par exemple, avec le groupe LVMH pour qu'effectivement, il n'y ait pas de débauchage. Après, la grande différence entre la maroquinerie et la confection, c'est que les maroquiniers, ils ont une vision à beaucoup plus long terme de leur charge de travail et les salaires sont plus élevés. Donc après, encore une fois, voilà, c'est à nous de faire en sorte que les salariés viennent chez nous, quoi. Après, nous, nos critères de recrutement, c'est quand même aussi beaucoup la proximité, parce qu'on est sur des salaires qui sont quand même pas très élevés et donc on embauche des gens qui sont autour de chez nous, quoi. Donc il y a quand même la partie géographique qui est importante. Ensuite, donc, votre question sur l'investissement. Alors là encore, je pense qu'il y a une très grosse différence entre la maroquinerie et la confection. Mais les maroquiniers sont invités effectivement à investir dans leurs outils, parce que c'est leur donneur d'ordre qui leur demande. Du côté confection, dans les adhérents, c'est exceptionnel, je pense, qu'il y en ait certains d'entre nous qui aient investi parce que le client nous a demandé d'investir. Pour moi, ça fait partie, quand je vous dis c'est à nous de donner envie à nos salariés de rester dans l'entreprise, c'est aussi à nous de donner envie à nos clients de continuer à travailler avec nous. Et pour leur donner envie de continuer à travailler avec nous, il faut qu'on investisse, il faut qu'on soit à la pointe sur les techniques de confection. C'est pour ça qu'on est proche de l'IFTH, c'est pour ça qu'on a une commission innovation pour progresser. En fait, moi, je pars du principe que c'est à nous de montrer aux clients qu'on est les meilleurs dans notre savoir-faire et que du coup, il va rester chez nous. Mais ce n'est pas lui qui nous demande d'investir. C'est une décision en tant que chef d'entreprise de se dire, je vais investir dans ce domaine-là.
Je veux bien essayer deux petits éléments de réponse à vos questions. La première, le Nord n'est pas une très grande région de luxe par rapport à l'Ouest, évidemment. Mais ce que je constate, alors je ne sais pas si c'est de la solidarité, en tout cas ce n'est pas de la philanthropie de la part des gens du luxe, c'est plus d'investir capitalistiquement dans leurs fournisseurs lorsqu'ils sont essentiels. Je prends juste dans ma région l'exemple de la dentelle, c'était dans la presse, ils ont mis 2 francs 6 sous, mais comme ils le font dans le cuir, dans les peaux rares, etc., c'est simplement par intérêt, pour verrouiller leurs approvisionnements en amont. Est-ce que c'est de la solidarité, bien entendu, éventuellement. La deuxième question, on a le CETI qui est exposant ici, qui lance son action On Demand for Good. Grosso modo, c'est toute l'idée qu'on est en train de mettre en place, il y a plusieurs initiatives dans ce sens-là, de la réponse à la demande. Évidemment, c'est les confectionneurs qui sont au final, ça oblige à travailler en proximité avec les fournisseurs de matière ou les ennoblisseurs. Les clients, qu'ils soient distributeurs ou marques, ne vont pas investir forcément chez le confectionneur. Le confectionneur va rester indépendant. Mais la condition pour que ça marche, c'est que la marque s'engage dans la durée et sur un volume, sans affecter encore l'ordre de fabrication. On l'affectera au dernier moment, mais en réservant de la capacité de production. Et là, il y a besoin d'un engagement qui peut être financier ou pas, mais il y a besoin que le client prenne ses responsabilités et s'engage vis-à-vis de ses fournisseurs sur un calendrier. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Toi, tu peux le vivre peut-être un petit peu plus concrètement.
Oui, moi, je pense qu'en ce moment, tout est ouvert. De toute façon, on rentre dans un truc de crise où vos demandes, les demandes de tout le monde vont être tellement supérieures à ce qu'on va pouvoir vous donner qu'il va falloir qu'on gère la crise tous ensemble. Enfin, les donneurs d'ordre, les acheteurs, que ce soit le mass market ou le luxe. Hein. Le mass market aujourd'hui revient aussi massivement en France avec des volumes qui sont pas du tout nos volumes habituels. Donc ça veut dire que nos usines doivent se transformer pour répondre à ces volumes. Et c'est chouette, hein, parce que une industrie textile, hein, elle dépend de deux domaines. Il y a le luxe, qui n'est jamais tellement parti de France, qui est quand même resté majoritairement, alors pas tant que ça sur la maille, mais dans les autres domaines. Et sur la maille, on compte bien les faire revenir. Pour l'instant, ils sont un peu partis en Italie. Mais il y a aussi tout ce mass market auquel je crois beaucoup et tous nos emplois qu'on va recréer. On était 400 000 il y a 15 ans quand même dans le textile. On est plus que 100 000 aujourd'hui. Il y a 300 000 emplois à recréer et c'est parce que ce mass market revient. Et ce mass market, en fait, il est distribué par différents créneaux de distribution. Il y a la grande distribution comme Auchan, Carrefour, Leclerc qui, eux, viennent nous voir et disent « Vous avez quoi ?» Et il faut qu'on amène le produit qui est complètement fini avec les bons boutons, les bons trucs, les trucs, et qu'on séduise l'acheteur qui va prendre un truc et qui va en prendre 10 000, 20 000, 100 000. Donc ça, c'est une première chose. Donc nous, il faut qu'on se transforme, il faut qu'on soit capable d'avoir, comme les fournisseurs asiatiques, des showrooms avec plein de trucs et puis les gens viennent faire leur picking. Et puis, il y a d'autres créneaux de distribution qui sont Decathlon, Kiabi, qui sont beaucoup plus, surtout Decathlon, intéressés à la façon dont ils fabriquaient à l'autre bout du monde, en fait. Ils ont vraiment co-investi, mais ils sont co-investis, en tout cas, en termes de technicité et tout ça, avec leurs fabricants là-bas. Et aujourd'hui, quand ils veulent revenir en France, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'ils veulent s'investir aussi sur nous, sur la façon dont on fait les choses. Donc, ce mass market qui va revenir, il va revenir soit en faisant des showrooms comme font les Asiatiques, soit en se mettant au service de ces gens-là, qui vont peut-être créer une usine à côté de la nôtre, mais qui vont profiter de... On va voir comment on se crée, comment on fait le truc. Nous, on va apporter certainement le savoir-faire de nos hommes, et le but, c'est que ce savoir-faire grandisse globalement. Et voilà, et je pense qu'il va falloir qu'on réponde à ces demandes. Il faut que nous, fabricants, on reste super ouvert. On a aujourd'hui sauvegardé le peu de savoir-faire qu'on a aujourd'hui, hein, qui reste, qui reste infime, qui reste, heureusement que ça se réveille maintenant, parce que dans 10 ans, c'était vraiment fini. Enfin, dans 10 ans, elles étaient toutes parties à la retraite et on n'aurait pas, enfin, depuis 20 ans, on ne remplace pas les départs en retraite. Enfin, surtout pas. Déjà, on était contents à chaque départ en retraite. C'était une fiche de paye en moins à la fin du mois. Enfin, c'était un peu de sueur froide en moins, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que nous, fabricants, on détient quelque chose qui est rare, qui va être un peu plus cher qu'avant, parce que celles qui partent à la retraite, elles sont restées au SMIC. C'est le seul domaine que je connaisse où quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, qui va deux fois plus vite qu'un débutant, est payé le même prix pratiquement qu'un débutant. Du coup, forcément, nous, aujourd'hui, on recrute des débutants qui vont deux fois moins vite. Donc forcément, le prix à la minute augmente. Donc le prix du Made in France va nécessairement augmenter le temps qu'on revienne à un truc normal, mais ça va augmenter. Donc voilà, donc on part avec vraiment beaucoup de défis dans tous les sens. Ceux qui ont les marchés aujourd'hui vont vouloir revenir en France d'une façon différente. Nous, il faut qu'on soit ouvert et il faut qu'on offre ce qu'on a à donner et les choses vont se passer comme elles doivent se passer, suivant les envies des uns et des autres. Le seul message, c'est qu'il faut qu'ils aillent vite, parce qu'en fait, les premiers servis seront les plus rapidement. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a qui sont encore à nous solliciter pour faire des capsules made in France. Des capsules made in France, non. Soit on revient en France sur tel domaine et on prend la décision et on y va et on attaque et on réserve des capacités de prod, des machines, des trucs, des hommes pour les 5 années à venir. Soit on n'est pas mûr, et j'ai peur que le jour où ces sociétés-là seront mûres, on sera déjà. Enfin, bon, j'espère pour eux qu'on se sera vraiment beaucoup, beaucoup agrandi, mais voilà, mon message, c'est aller vite.
Et on touche du doigt, tout à l'heure, vous avez évoqué toutes les deux, sur l'attractivité, l'attractivité en salariale. Je pense que c'est tous ensemble où il faut qu'on arrive à enrayer un fléau que sont les promotions. Il faut qu'on habitue le client à acheter un produit français au prix juste, c'est-à-dire un prix qui rémunère convenablement le salarié, qui permet à l'entreprise de gagner de l'argent, d'avoir des marges pour investir dans les métiers, pour investir dans les machines en fait, à confection et pour investir, si vous voulez, dans les salaires, pour justement cette attractivité, pour que les jeunes, si vous voulez, restent et pour voilà, les remercier voilà, de ce beau travail. Et comment, voilà, tous ensemble, on va enrayer ce fléau et cette spirale négative de vendre, si vous voulez, en promotion. Alors, tout à l'heure, vous parliez du luxe et vous parliez donc de la grande consommation. De Vernois, on fait partie de toutes ces marques, si vous voulez, milieu ou haut de gamme, où on a, parce que les chaînes, en fait, ont instauré ça, on vend maintenant un produit sur deux en France et vendu en promotion. Les marges s'étiolent, elles fondent comme neige au soleil. Donc si les marges, si vous voulez, baissent, du coup, on investit moins et on fait attention, on rogne partout, donc les charges salariales. Donc revenons à des produits parce qu'ils sont français, parce que derrière, il y a des salariés français, il y a des filatures françaises, il y a des tisseurs français, il y a des tricoteurs français, il y a des confectionneuses françaises. Revenons à un prix qui paye, si vous voulez, tout le monde et que le consommateur prenne conscience de ça et qu'on arrête ces promotions qui nous tirent vers le bas.
Je crois que globalement, sur tous nos produits made in France, ce qu'on voit avec les clients, c'est que ces produits ne doivent jamais être soldés. Ils doivent être commandés en petite quantité. Des réassorts sont prévus. On essaye de ne pas faire une nouvelle collection tous les 3 mois, mais un truc un peu durable, un truc un peu réfléchi, un truc qui est peut-être emblématique de la marque, plutôt que tous les 3 mois sortir un nouveau truc. Prenons plutôt peut-être un an et demi à sortir un truc, mais sortons le truc qui va être emblématique et qui va être produit à la demande. On pourra changer les coloris. Enfin, on a fait un super truc avec Balzac l'année dernière où je crois qu'on avait sorti quatre couleurs de bonnets différents. Et c'est vrai que le rose était en rupture de stock le 15 octobre. Ils n'avaient pas encore ouvert les vraies ventes, ils n'avaient ouvert que les préventes. Et en fait, à la fin des préventes, le bonnet rose était déjà en rupture de stock. On était le 15 octobre, il y avait encore au moins 2 mois de vente de bonnets. Voilà, l'avantage, c'est que nos machines, elles sont là. On a relancé les machines. Et le 30 octobre, Balzac était refourni en bonnet rose et a pu déjà lancer des ventes contente en prévenant le client qu'il n'allait pas être livré le lendemain, parce qu'on n'a peut-être pas besoin de son bonnet rose le lendemain non plus. Donc il y a plein de trucs que les clients aujourd'hui entendent. Je pense qu'on avait peur du client. On pensait jusqu'ici que le client avait besoin absolument de ses promotions, il a besoin de ses soldes, il a besoin de ces trucs qui changent tous les 3 mois. En fait, je pense qu'il faut qu'on se réinterroge sur le vrai besoin du client. Je crois que le vrai besoin du client, c'est d'où vient mon produit, qui a fabriqué ça, est-ce qu'il est payé le même prix que moi à la fin du mois, ou est-ce qu'il est payé 50 $? En fait, aujourd'hui, les questions des clients, des jeunes clients surtout, sont en train d'être bouleversées. Donc, posons-nous les bonnes questions, répondons correctement. C'est vrai, quelquefois, on nous demande, mais vous arrivez à vous aligner avec les prix asiatiques? Et je dis, mais c'est pas tout à fait dans ce sens-là qu'il faut qu'on fasse. C'est plutôt pour moi, aux pays asiatiques, à s'aligner sur nous, à avoir un système social qui vaut celui qu'on a en France, enfin, dont on peut tous être hyper fiers. On peut être fiers d'aller à l'hôpital, enfin, quand on est malade, fiers que nos enfants puissent aller à l'université gratuitement, fiers de tout ça. Et c'est plutôt ce modèle-là qu'il faudrait qu'on arrive à mettre au Bangladesh, en Thaïlande, enfin, où on veut. Et que du coup, le vrai prix des choses, c'est plutôt celui du Made in France. C'est pas l'autre prix. Et pour faire partie d'une génération qui a vécu l'avant et l'après la levée des quotas chinois, fin des années 90, milieu des années 90, on s'achetait 3 t-shirts et ça allait très très bien. On n'avait pas besoin des 15 t-shirts qu'on s'achète aujourd'hui pour le même prix. Donc voilà, revenons, reposons-nous les bonnes questions et revenons. Je crois que il faut se reposer les bonnes questions. On est très loin de la question qui a été posée. Mais... Oui, mais... J'en profite pour diffuser mes messages.
Et en même temps, on est sur la question de l'existence du salon, oui. Sur le Made in France et sur ce salon qui, justement, fait en sorte de montrer les possibilités qui existent pour répondre à ce client et ne pas se mettre forcément à sa place et se dire, mais oui, peut-être qu'il peut attendre, comme vous disiez, et qu'il y a peut-être d'autres attentes prioritaires pour lui. On a juste le temps pour une dernière question et après, il faut qu'on libère la salle.
Moi, je suis Moritz Lénard, je suis en train de créer une marque.
D'accord. Mode.
Et donc, moi, je crée notamment parce que je veux que fournir des bons produits et je veux que les salariés qui les construisent peuvent être des bons des voisins, des co-citoyens. À l'occasion, je suis encore allemand, pas encore français, mais bref, j'habite ici, quoi. Et donc, j'ai envie de créer cela et je ne vais pas, évidemment, construire des lieux de fabrication pour faire mes pantalons. Donc, j'ai besoin de travailler avec des marques ou des fournisseurs comme vous. Est-ce que vous avez le temps, dans tout ce que vous faites, d'accueillir des marques, de aussi nous aider, de fournir cette transparence parce que je crois que ce que je veux faire comme marque, c'est raconter une histoire vraie, en fait, au lieu de raconter une histoire, je sais pas, comme Ralph Lauren qui raconte une histoire de quelqu'un qui joue du golf sur un cheval, des trucs absurdes, mais qui disent rien sur leurs 3 sous-traitants, tous les intermédiaires, et qui sont complètement éloignés de ce qu'ils font, en fait, c'est-à-dire créer du textile. Donc, pour raconter cette histoire qui est bonne, jolie, vraie, importante, est-ce que vous avez beaucoup d'interactions avec les marques? Est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'on peut filmer, est-ce qu'on peut, pas forcément filmer, mais c'est quand même important aussi de donner des images, de vraiment de raconter ce produit vient de là, on va le mettre sur le marché, ça ne va pas bouger, on va le faire tous les années, vous pouvez le recommander, et tout, alors commander à nouveau, je veux dire. Est-ce que vous avez la bande passante pour ce genre d'activité aussi?
Est-ce que vous êtes ouvert à la transparence? Est-ce que vous êtes ouvert à ce qu'on vienne photographier si c'est... Robert qui est sur la machine à tricoter, est-ce que Robert il voudra bien être photographié pour dire c'est lui qui a tricoté le panneau?
Ce qui est bien, c'est que ce soit gagnant-gagnant pour les deux. Si vous voulez un jeune qui vient pour créer une histoire et qui a besoin de connaître un certain savoir-faire, qui ne connaît pas la technique, faire ces échanges, pourquoi pas? C'est-à-dire le jeune va peut-être avoir le réseau, le marketing, l'influence, et l'entreprise qui a le savoir-faire aura ce savoir-faire, mais peut-être pas justement le réseau d'influence. Donc ça peut être gagnant-gagnant sur deux points de vue et de savoir, si vous voulez. Donc bien sûr, je veux dire, on est tellement fiers de faire visiter nos entreprises, enfin en tout cas, oui.
Donc, si j'ai bien compris votre question, en fait, il y a deux volets dans ce que j'ai entendu. C'est la transparence et la communication sur où vous fabriquez. Et c'est le créateur qui est en train de créer sa marque. Est-ce qu'il y a de la place pour lui dans les ateliers français ? OK. Donc, en fait, c'est vrai que le sujet des créateurs, pour les façonniers, pour une grande majorité des adhérents de notre Grand Ouest, c'est toujours un sujet délicat. Parce qu'en fait, nous, on est avant tout des industriels. Donc, c'est un peu ce que disait Karine tout à l'heure. Et qu'il y a certains ateliers qui vont être câblés pour répondre à votre demande, c'est-à-dire à faire de la toute petite série, à faire du développement et de grandir avec l'histoire de votre marque. Et il y a des ateliers qui vont être beaucoup plus structurés et qui ne vont pas avoir la capacité à répondre à votre demande. Donc, je dirais que l'important, c'est votre projet, comme vous l'avez dit, et l'histoire que vous avez envie de raconter. Et quand vous venez voir un fabricant français, c'est complètement différent que quand vous allez voir un fabricant chinois. C'est un peu comme ce que disait Karine tout à l'heure. C'est que le fabricant français, il va vous écouter, il va écouter votre histoire, mais il faut que vous arriviez avec un projet bien construit pour qu'il vous écoute. Ça, donc, c'est vrai que le salon Made in France est un salon très, très intéressant et très bien pour ça. D'ailleurs, bon, je rappelle qu'il a été créé par Mode Grand Ouest il y a 19 ans. Et sinon, l'autre salon qui est bien aussi, c'est Première Vision qui a lieu dans 15 jours à Villepinte, parce qu'il faut que vous choisissiez vos tissus, faut que vous soyez, enfin, c'est votre projet avant tout, c'est pas le nôtre. Donc je dis que c'est important, parce que quand vous allez fabriquer en Chine ou en Asie, vous avez des produits sur étagère, comme le décrivait très bien Karine, et limite, les clients ne savent pas, les marques ne savent pas c'est quoi la matière qu'il y a sur leurs produits, ils ne savent même pas la référence. En Europe et en France, on ne travaille pas du tout comme ça. Donc nous, on a besoin que le client il construise son propre produit. Et une fois qu'il l'a construit, il vient nous voir, il vient voir un atelier qui est câblé pour fabriquer son produit. Et là, on va pouvoir l'aider à raconter son histoire. Après, il y a la question de la transparence dans votre question. Donc, la transparence, c'est un sujet fondamental, surtout en ce moment. Alors, vous étiez peut-être hier soir à la conférence qui était plus basée sur ça. Mais ça, c'est un point fondamental, c'est vrai, dont on n'a pas parlé dans la conférence d'aujourd'hui, parce que ce n'était pas forcément l'objet, mais je vais en parler parce que c'est un point fondamental aujourd'hui dans notre métier. C'est qu'aujourd'hui, on a l'obligation, en tant que fabricant, de savoir où est-ce qu'on achète nos matières si on en achète, comment sont fabriqués les produits, parce que demain, il y a une nouvelle loi qui va obliger un marquage sur les vêtements avec un marquage développement durable. Alors Eric en parlerait mieux que moi, mais je vous synthétise avec mes mots. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous, en tant que fabricants, on est soumis à des audits pour être transparent et pour avoir une totale traçabilité sur ce qu'on fait et où on achète nos matières. Et alors après, il y a la communication aussi dans votre question. Je dirais que ça, c'est à voir avec l'atelier que vous allez trouver, parce qu'il faut savoir que dans le luxe, on est soumis à une extrême confidentialité et que du coup, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de communication. Voilà.
Et moi, juste...
Dernière réponse. Après, il faut
D'accord.
Continue la conversation. Non,
alors, ça va être très court. Ma réponse, c'est... alors, parce que en fait, c'est non. Enfin, par rapport à ce que vous, c'est le contraire de la question que vous posiez. Et en tout cas, ce par quoi vous commenciez. Si je pense que les marques qui se créent doivent se créer en se disant qu'elles font un petit atelier confection. Je pense que c'est là qu'est l'avenir. Je pense que vous allez avoir énormément de mal à monter des marques sans avoir un truc, un outil en propre. Il y a certaines choses qui sont extrêmement compliquées à faire. Je ne vous conseille pas de monter un atelier de tricotage, parce que là, le côté fabrication de la matière. En revanche, couper et coudre, alors ça dépend après des produits et tout ça, mais c'est, oui.
Non, mais ça dépend des produits. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Karine.
Alors, bon. Je pense que je vais pouvoir vous mettre d'accord. Il faut savoir que vous pouvez vous appuyer justement sur des filières, de tricotage, d'habillement. Et au niveau de l'IFTH, par exemple, on met à partir de la fin de l'année à disposition ce qu'on appelle un lab, un Fab Lab, où là, vous avez toute la capacité justement de pouvoir créer et d'être dans un microcosme où vous avez des matières durables, puisque c'est au sein de la caserne sur Paris, où vous pourrez vraiment développer vos collections en autonomie et pouvoir justement vous faire vous-même votre propre opinion sur votre produit et être en mesure ensuite de proposer à des entreprises avec déjà un projet bien construit, avec des matières que vous aurez sourcées déjà très, on va dire, cataloguées en fonction de votre objectif, on va dire, commercial. Et donc moi, je vous enjoins surtout de vous rapprocher de toutes ces organisations qui peuvent vous guider. Voilà.
C'est peut-être plus simple que de monter tout de suite un atelier confection. Voilà. Mais je tiens surtout à bien dire à Sophie que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail. Mais c'est, alors, on a l'atelier de tricotage et l'atelier de confection. Et c'est vrai que les machines pour la confection sont un peu moins chères que les machines pour l'atelier de tricotage.
Après,
c'est
pour ça que,
mais je ne voulais surtout pas dire que c'était c'est plus simple financièrement. Ce n'est pas plus simple techniquement, bien sûr.
Oui. Après, il faut faire le produit qui est possible en Made in France. Des poches passepoilées partout ou 60 minutes de remaillage sur une veste, c'est pas possible. On le vit là tous les jours. Donc
l'idée, c'est de s'appuyer effectivement sur des gens. Si vous n'avez pas, vous, au sein de votre future marque, les compétences de développement produit, c'est qu'il existe des structures qui peuvent vous aider à développer ce produit. Et vous savez ce que vous voulez raconter, vous connaissez votre cible, vous connaissez le prix auquel vous voulez arriver. Et après, bien réfléchir en se disant, si je veux du Made in France, effectivement, peut-être que mon choix de matière ou mon choix de forme ou de détail feront qu'on va atteindre un tel temps que ça ne pourra pas passer, enfin, etc. Donc ça, je pense que vous pouvez effectivement vous appuyer sur la profession. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de toute votre participation et je remercie surtout nos invités.